Je vous invite à tourner avec nous dans Exode. Merci à Miguel qui a pris la relève la semaine dernière. Et puis, on arrive vers la fin d'Exode. Quand c'est un des livres qu'on survole à haute altitude. Donc, on couvre beaucoup de chapitres à la fois. Et puis, pendant que j'étais en train de réviser, de me préparer pour enseigner ce matin, je pensais à ce qui s'était passé au Québec. Puis, une des dimensions de tout ça, c'est que ça amène les Québécois, ça amène la société québécoise à faire une grande remise en question. Une espèce de retour sur soi où on fait un examen de conscience. On le fait comme société. Là, les médias s'en mêlent. Des fois, tu sens qu'on veut vendre la cote d'écoute sur ça. Fait que ça crée des distorsions. Des fois, la réflexion est trop rapide. Ça demande plus de profondeur. Mais ça crée des remises en question. Puis une des choses qui ressort de ça, c'est que t'es confronté au fait que l'être humain est capable des pires atrocités. Et s'il y a une chose qui est claire, je crois, pour les Québécois aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas juste dire « mais lui, c'est un fou, l'être humain est capable des pires affaires et on doit se remettre en question, on doit s'examiner. » Et malheureusement, ça a pris quelque chose d'absolument horrible, un drame terrible, mais espérons qu'il y a des choses qui vont ressortir de ça puis des remises en question. Et dans le passage où on retrouve Israël ce matin, c'est ça qui est en train de se passer. Israël vient tout juste de sceller son alliance avec Dieu. Ils sont entrés dans cette relation d'amour avec Dieu, où Dieu va prendre soin d'eux, ils vont marcher avec lui, puis Moïse est appelé à remonter sur le mont Sinaï, et le séjour dure un petit peu trop longtemps. Puis là, Israël va s'impatienter, ils vont manquer de foi, parce qu'ils ont besoin de voir Moïse, de voir pour croire. Et là, ils vont manquer de foi. Et ça va les conduire dans des péchés horribles. C'est inouï de voir à quel point ils font volte-face très, très rapidement. Et Israël avait besoin de ce moment-là. Ils avaient besoin de voir leur cœur. Le potentiel de péché qu'il y a dans le cœur humain, malgré toutes les bénédictions que Dieu venait de leur donner, ils avaient besoin de découvrir ça. Et à travers les passages qu'on va voir ensemble ce matin, on va voir qu'Israël découvre non seulement son cœur, un peuple au cou raide, un peuple rebelle, mais à travers ça, ils vont pouvoir découvrir la puissance de l'intercession et ils vont découvrir davantage encore le Dieu de grâce et de bonté qui va continuer à marcher avec eux, malgré leur folie. On va prier ensemble. Père éternel, merci pour ta parole, Seigneur. Cette semaine, j'étais bouleversé parce que j'ai entendu qu'il s'était passé à Québec, Seigneur. Et mon roc, c'est toi. Mon rocher, c'est toi. Dieu, tu demeures. Tu es fidèle, Seigneur. Les hommes peuvent faire des choses atroces. Ta bonté demeure, ta fidélité demeure, Seigneur. Et tu nous guides à travers ta parole pour savoir comment agir dans ce monde, comment se comporter dans ce monde. Je prie de venir nous parler ce matin, Seigneur. Parle-nous à travers ta parole et aide-nous à recevoir ta parole personnellement pour nos cœurs et pour nos vies. C'est en Jésus qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu.
Donc, le passage biblique de ce matin, tiré d'Exode, chapitre 32, versets 1 à 6, 9 à 14, 30 à 35, ainsi que le chapitre 33, versets 12 à 17 dans l'édition Second 21. Donc, je répète, Exode 32, versets 1 à 6, 9 à 14, 30 à 35, et chapitre 33, versets 12 à 17 dans l'édition Second 21. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Alors, il se rassembla autour d'Aaron. Il lui dit, « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Aaron leur dit, « Retirez les anneaux d'or qui pendent à vos oreilles, aux oreilles de vos femmes, de vos fils, de vos filles, et apportez-les-moi. » Chacun retira les anneaux d'or qui pendaient à ses oreilles et les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en métal fondu. Ils dirent alors, « Israël, voici tes dieux qui t'ont fait sortir d'Égypte. » Lorsqu'Aaron vit cela, il construisit un autel devant lui et s'écria, « Demain, il y aura une pardon, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et offrirent des holocaustes et des sacrifices de communion. Le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour s'amuser. Maintenant encore, dans chapitre 32, versets 9 à 14. L'Éternel dit à Moïse, « Je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux et je vais les faire disparaître, tandis que je ferai de toi une grande nation. » Moïse implora l'Éternel, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Éternel, ta colère s'inflammera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, « C'est pour le malheur qui les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs. Tu leur as dit en jurant par toi-même, « Je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Toujours chapitre 32, versets 30 à 35. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. Peut-être obtiendrai-je le pardon de votre péché. » Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait des dieux en or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface de ton livre que tu as écrit. » L'Éternel dit à Moïse, « C'est celui qui a péché contre moi que j'effacerai de mon livre. Va donc, conduis le peuple à l'endroit que je t'ai indiqué. Mon ange marchera devant toi, mais le jour où j'interviendrai, je les pénurerai de leur péché. » L'Éternel frappa le peuple parce qu'il avait fait le veau, celui qu'avait fabriqué Aaron. Chapitre 33, dans Exode, versets 12 à 17. Moïse dit à l'Éternel, « Voici que tu me dis, fais monter ce peuple. Et tu ne me fais pas connaître qui tu enverras avec moi. Cependant, tu as dit, je te connais par ton nom et tu as trouvé grâce à mes yeux. Maintenant, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, fais-moi connaître tes voies. Alors je te connaîtrai, je pourrai encore trouver grâce à tes yeux. Regarde, cette nation est ton peuple. » L'Éternel répondit, « Je marcherai moi-même avec toi et je te donnerai du repos. » Moïse lui dit, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, ainsi que ton peuple, ne serait-ce pas que tu marcheras avec nous, Et quand nous serons différents, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont à la surface de la terre. » L'Éternel dit à Moïse, « Je ferai aussi ce que tu me demandes là, parce que tu as trouvé grâce à mes yeux et que je connais ton nom. »
Merci, Luc. Ce passage-là est comme une espèce de parenthèse. Essayez de le retenir pour dimanche matin prochain. Pour bien comprendre les trois chapitres qu'on couvre ce matin, il faut réaliser que c'est comme une parenthèse. Où Dieu a donné, vous l'avez vu la semaine dernière avec Miguel, les instructions pour la construction du tabernacle. Puis ensuite de ça, il va y avoir la construction du tabernacle, d'accord? Et il y a une parenthèse qui se passe entre les deux. Dans cette parenthèse-là, Israël devait découvrir son propre cœur. Dieu les a choisis, il les a libérés de l'esclavage en Égypte, il les a bénis abondamment et ils devaient découvrir leur propre cœur à ce moment-là. On a des parenthèses comme ça dans nos vies. Il y a des choses, il y a des moments qu'on vit dans notre vie où parfois ça va être comme Israël à travers notre folie à nous, à travers notre bêtise à nous, des fois ça va être à travers des circonstances qui vont subvenir. Mais c'est comme une parenthèse, c'est comme si le temps s'arrêtait puis Dieu se révèle à nous d'une manière intensive. Je ne sais pas si vous êtes capable de penser à des moments dans votre histoire personnelle où vous diriez, ça c'est une parenthèse. C'est comme si le temps s'était arrêté, puis j'ai découvert davantage qui est Dieu. Ces moments-là sont vraiment précieux. Souvent, ce qu'on va découvrir sur nous n'est pas nécessairement extraordinaire, peut être très, très, très décevant. Mais on découvre la personne de Dieu. Et Israël, je crois, avait besoin d'être confronté à sa propre nature pécheresse pour découvrir davantage la grâce de Dieu. Et vous allez voir, lorsqu'on va arriver dans le passage la semaine prochaine, c'est comme si Dieu reprenait exactement où il les avait laissés lorsque Moïse est monté sur la montagne. Puis là, il dit, où on en était là, avant que vous me dérangiez? Parce que je suis votre Dieu, puis je vais marcher avec vous, puis je vais vous aimer. Et à travers le passage de ce matin, c'est ça qu'on voit. Et le passage se termine, je vais juste vous lire, à la fin, on va y revenir tout à l'heure, Exode 34, versets 5 et 6. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, auprès de Moïse, et proclama le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, donc c'est Dieu qui se révèle lui-même, là. C'est Dieu qui parle de lui. Salut, je m'appelle Yannick. C'est Dieu qui est en train de faire ça. L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux, ça veut dire qu'il pardonne, et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Ça, c'est ce que Dieu a déclaré après qu'Israël, quelques jours après avoir été béni, s'est fabriqué un veau d'or pour l'adorer et rejeter Dieu. Ce matin, on va voir ensemble qu'Israël devait découvrir son propre cœur pour connaître la puissance de l'intercession et pour connaître la fidélité de Dieu ou la bonté de Dieu. Jean Calvin, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises ici, ce passage-là, cette citation-là de Jean Calvin, je l'ai déjà rapportée. Jean Calvin disait, « Le cœur humain est une fabrique d'idoles. C'est une usine à idoles. On fabrique naturellement des idoles depuis la chute d'Adam, naturellement sans Christ. C'est ça que notre cœur cherche à faire. » Il prend des choses bonnes que Dieu nous a données et les élève à la place de Dieu puis deviennent plus précieuses même que la personne de Dieu dans nos vies, dans nos cœurs. Et donc, on en fait des idoles. Le cœur humain est une usine à idoles. Regardez ce qui se passe avec Israël. Exode 32, 1. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, « fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » 40 jours d'absence, ils sont déjà prêts à renier Moïse, à renier Dieu et à se fabriquer une idole. Puis à quelque part, ça parle de la difficulté de marcher par la foi. Dans le fond, ils ne voient plus Moïse. Si Moïse avait été là, on peut croire qu'il n'aurait pas péché comme ça. Mais parce qu'ils ne voient plus Moïse, ils ne réussissent plus à marcher par la foi. Marcher par la foi, c'est un véritable défi. Maintenant, ils ont la mémoire courte. C'est effrayant ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont là, ils sont plus en Égypte. Ils ont plein de preuves tangibles, visibles dans leur vie que Dieu les a bénis. Mais à ce moment-là, ils doutent et ils décident de renier Dieu et de demander à Aaron de leur fabriquer une idole. Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et probablement qu'ils avaient été inspirés des idoles égyptiennes. Je pense qu'on a des images. Est-ce qu'on a deux images avec des veaux? Alors ça, c'est des idoles égyptiennes, d'accord? Donc lorsque vous pensez aux veaux d'or, on a une autre image aussi, ça peut vous donner une idée. Alors, possiblement qu'ils ont été inspirés de ça. On va découvrir au fur et à mesure qu'on avance avec Israël qu'ils ont quitté l'Égypte en gardant une vénération à certains des dieux qu'ils ont adoptés en Égypte. Et donc, possiblement que c'est ça qui s'est passé. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils demandent à Aaron, « Fabrique-nous une idole, ils apportent de l'or. » Aaron accepte de faire ça, leur coule un veau en or, ou plaqué, on ne sait pas tout à fait clair, mais couvert d'or au moins, et ils vont commencer à l'adorer. Il est écrit dans Exode 32, 6, « Le lendemain, ils se levèrent de bon matin, et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. » Et ils ont oser l'appeler l'Éternel. C'est comme ça qu'Aaron l'a représenté. Demain, on va adorer l'Éternel. Ils savent très bien que ce n'est pas Dieu. Dans cette folie-là, ils ont péché contre plein de commandements. Plein de commandements parmi les 10 commandements. En adorant un Dieu qui serait peut-être une évocation de l'Éternel, mais qu'ils auraient fait eux-mêmes, mais qui n'est pas Dieu en réalité. C'est un Dieu possiblement inspiré de l'Égypte. Et ce que le passage nous dit, le lendemain, ils se levèrent de bon matin, ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Tous les commentateurs sont clairs. Les divertissements étaient malsains, d'accord? J'emploierai pas de mots ici ce matin, peut-être des jeunes enfants, mais c'était de la débauche, ok? C'est ça qui s'est passé. C'était vraiment un powwow qui est arrivé là, complètement débauché. C'est ça qui s'est passé à ce moment-là. Pour ceux qui ont participé, parce que clairement, ce n'est pas tout le peuple qui a participé à ça. Qu'est-ce que ça nous dit sur Israël, mais sur le cœur humain? Ils viennent de sortir d'Égypte. Dieu leur a montré sa gloire. Dieu leur a montré sa puissance. Jusqu'à présent, dans le livre d'Exode, l'idée qu'Israël est pécheur était un peu présente, mais pas beaucoup. Il est question de péché 10 fois, juste dans les 31 premiers chapitres d'Exode, là, le mot péché est employé 10 fois. Dans ces 3 chapitres-là, il est employé 11 fois. Et il va être question d'un péché ignoble qu'ils ont fait. C'est comme ça que Dieu va le qualifier. Vous ne trouvez pas ça étrange que ce peuple-là qui était sans Dieu, ce peuple-là qui était sans loi, ce peuple-là qui était sans protecteur, est libéré, ils sont conduits au mont Sinaï. Dieu se révèle à eux, Dieu manifeste sa gloire, Dieu leur donne sa loi, bam, ils pêchent. Il y a quelqu'un d'autre dans les Écritures qui a parlé de l'effet que la loi a sur le cœur humain. Si vous connaissez les Écritures, vous pouvez penser tout de suite à l'Épître aux Romains. Puis vint la loi. Israël était heureux, il avait été libéré, il voulait marcher avec Dieu. On va tout faire ce que tu veux. Puis Dieu leur donne la loi. Et les Écritures nous disent que la loi a un effet sur le cœur pécheur, sur le cœur déchu, sur le cœur de tous les êtres humains qui sont, d'une manière ou d'une autre, pécheurs. L'apôtre Paul le résume comme ceci dans Romains 3:20. « Car nul ne sera justifié devant lui par les œuvres de la loi, puisque c'est par la loi que vient la connaissance du péché. » Paul dit dans Romains 7:7, « Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. » Mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi n'eût dit « Tu ne convoiteras point ». Puis dans Romains 7-8, verset suivant, il dit « Et le péché, saisissant l'occasion, produisit en moi, par le commandement, toutes sortes de convoitises. » Dieu nous dit que pour un cœur pécheur, la loi sainte, pure, la loi qui dit « aime ton prochain, fais le bien, marche dans la sainteté, ne sois pas égoïste, sois pas meurtrier, sois pas menteur, parle avec vérité. » Qui peut être contre ça? Parler avec vérité. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus beau, de plus noble, qui est juste vrai dans nos relations ensemble, puis parler avec vérité? Mais quand la loi vient, puis elle est présentée, elle est proposée à un cœur déchu, elle amorce en nous toute une trolée de désirs. C'est pas que le péché n'était pas là avant. C'est que la loi vient comme une espèce de highlighter qui s'en vient souligner, surligneur qui met en lumière tout ce qu'il y avait dans notre cœur avant. C'est la puissance de la loi de Dieu. Et c'est ce qui s'est passé ici avec le peuple d'Israël. Et dans un sens, même si je suis chrétien et que Dieu m'a donné un cœur nouveau, j'ai des luttes avec le vieil homme. J'ai des combats avec le vieil homme. Et il m'arrive donc d'aller lire les Écritures, de lire la parole de Dieu, de tomber sur des passages puis de dire « ça me déplaît cette loi-là. J'ai pas le goût de faire ça. » Ça m'arrive d'avoir une conversation avec mon épouse, avec des amis, avec un chrétien, puis il va me rappeler la pensée de Dieu, la loi de Dieu, puis « ah! » Ça me tente de transgresser cette affaire-là. C'est ce vieil homme-là qui est en moi. Et sans l'Esprit de Christ, cette tentation-là est constante. C'est l'œuvre de la loi. Et donc, je m'efforce à tous les jours à aller lire les Saintes Écritures puis exposer mon cœur à la loi de Dieu pour voir à quel moment est-ce que le vieil homme en moi, la vieille nature, comme dit Paul, veut prendre le dessus, me ramener dans de la rébellion. Et je prends le temps rapidement de dire, « Seigneur, non, j'aime ta loi parce que je suis habité par ton esprit puis je veux marcher dans tes voies. » Mais Israël, ici, n'est pas habité par l'Esprit de Dieu. Et donc, Israël va concevoir cette idole qu'ils vont adorer. Puis les idoles dans nos vies, ça a souvent l'air de quelque chose qui est simple, qui n'est pas complexe. C'est comme une convoitise, puis c'est ça ton idole. Tu sais, moi, j'aime l'argent, puis c'est ça que je veux, admettons. Mais les idoles ont toujours deux dimensions. Généralement, il y a une dimension très, très simple au péché, puis il y a une dimension plus complexe, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont rattachées à ça, et c'est fascinant dans le passage. Le péché d'Israël est quand même assez simple. On ne voit plus Moïse, fais-nous un Dieu qu'on va suivre et qu'on va adorer. Mais en même temps, qu'est-ce qui se passe à travers ça? Bien, les leaders sont entraînés là-dedans. C'est frappant comment Dieu est gracieux avec Aaron, c'est fou raide, là. Je veux dire, si c'était moi, c'est le premier que je frappe, là, c'est sûr, là. Comprenez? Il y a juste ça à faire. Garde-les tranquilles pendant que je passe, s'il te plaît. Garde la maison, garde tout le monde en ligne, s'il te plaît. Raté, zéro pin bon. Les leaders sont entraînés dans leur péché. Mais il y a autre chose aussi. Avec quelle heure ils ont fabriqué l'idole? Avec quelle heure? C'était des esclaves, il y avait de l'or. C'est avec les cadeaux des Égyptiens. Ils ont pris l'or de la rédemption, l'or que Dieu leur a donné, puis ils ont fait une idole avec ça. C'est ça l'idolâtrie. C'est ça l'idolâtrie. Dieu me bénit, Dieu me fait du bien, et je prends ce qu'il me donne, puis je dis, OK, merci, bonhomme, maintenant c'est ça que je vais adorer. Voyez-vous? Et c'est ça qu'ils ont fait. Ils ont pris l'or de la rédemption, ils ont été rachetés, ils ont eu des cadeaux, ils ont pris cet or-là que Dieu leur a donné pour aller s'établir, et ils en ont fait une idole. Ils ont péché contre tellement de commandements à travers cette simple faute-là, contre Dieu, les uns envers les autres, par la débauche qui était là. Et Dieu les a frappés. Dieu a envoyé ceux d'entre eux qui avaient été fidèles et ils sont allés frapper. Un jugement sévère. 3000 morts en une seule journée. Parce que Dieu les a frappés. Et on comprend à travers cela que ce n'est pas tout le peuple qui a activement participé dans ce péché-là. Fait que je ne sais pas quand Dieu produit des parenthèses dans ta vie. Puis peut-être que tu es à un endroit où tu dis, bien, je ne connais pas vraiment Dieu, mais je suis définitivement dans une parenthèse parce que je suis confronté avec la stupidité de mes choix, de mes actes. Ma vie s'auto-détruit devant moi parce que je ne fais pas les bons choix puis je ne m'en vais pas dans la bonne direction. Puis tu es confronté avec tes propres idoles. Comme on va le voir dans la suite, même ça, ça peut être une grâce de Dieu envers toi. Parce que Dieu est en train de te révéler ton cœur. Dieu est en train de te dévoiler ton cœur. Et pour moi, comme chrétien, j'ai l'opportunité, à travers les discussions avec les frères et sœurs dans la foi, avec des chrétiens, lorsque j'écoute des messages de la parole de Dieu, lorsque je vais lire la parole de Dieu, j'ai l'opportunité d'examiner mon cœur. Comment mon cœur réagit face à la loi de Dieu, face aux standards de Dieu? Est-ce que tout ça est lourd? Est-ce que tout ça fait naître en moi de la rébellion? C'est mon vieil homme qui est là. Et Paul m'exhorte, fais mourir les œuvres de la chair, renonce à ces choses-là. C'est le vieil homme. Vas-y par l'Esprit, marche avec Dieu. Décide de marcher avec lui. Et ces parenthèses-là sont importantes si tu es actuellement dans une de ces parenthèses. Reste pas sidéré par ton péché puis ses conséquences. Écoute bien la suite de l'histoire, parce que Dieu était simplement en train de leur révéler leur cœur. La folie du péché d'Israël va nous permettre de connaître davantage Dieu et de plonger dans un des plus grands mystères sur Dieu. C'est la puissance de l'intercession. Vous allez voir dans le passage, c'est un des plus grands mystères sur la personne de Dieu, la puissance de l'intercession. Qu'est-ce que c'est intercéder? C'est lorsque je vais parler en faveur de quelqu'un d'autre, lorsque je vais m'interposer pour plaider la cause de quelqu'un d'autre. On le fait dans la prière constamment, on intercède pour des gens autour de nous. On peut le faire verbalement lorsqu'il y a un conflit au travail, puis on a l'impression que c'est en train de mal se régler, il y a un peu d'injustice, je m'en vais plaider la cause. Le patron manque d'informations dans la décision qu'il a prise. Humblement, discrètement, je m'en vais le voir, je dis « Écoute, je pense qu'il te manque une info, là ». Puis c'est à toi, c'est ta décision, mais je pense qu'il te manque une info, puis je suis en train d'intercéder quand je suis en train de faire ça. C'est ça l'intercession. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moïse est là sur la montagne. Moïse est avec Dieu. Dieu lui dit, écoute, il faut que tu descendes. C'est le fouillis en bas, ça n'a pas de bon sens. C'est littéralement, là, je m'excuse pour le terme, mais là, il est à sa place, le bordel. D'accord? C'est ça qui se passe en bas. Fait que descends, puis va-t'en t'occuper d'eux. Puis je vais les détruire. Puis je vais créer un nouveau peuple avec toi. Là, Moïse intercède tout de suite. Il n'a rien vu. Peut-être heureusement qu'il n'a rien vu. Il intercède, il s'interpose, il dit « Non, Seigneur, c'est ton nom, c'est ta gloire, c'est ton peuple, fais pas ça, Seigneur. » Puis Dieu dit « C'est bon, je vais les châtier, mais je ne vais pas les détruire. » Donc Moïse s'interpose, Moïse intervient. Lorsqu'il arrive en bas, il constate de ses yeux, brise les tables de la loi, il est en fusil lui-même, d'accord? Mais ici, il a obtenu que Dieu ne va pas complètement détruire le peuple. Et donc, dans les chapitres qui suivent, Moïse va intercéder de plusieurs manières parce qu'une fois que Dieu va avoir frappé, Dieu va avoir châtié, Dieu va dire « Maintenant, je ne marcherai plus au milieu de vous. Je n'avancerai plus avec vous. Si je marche avec vous, je vais vous détruire. Vous êtes des rebelles. Ma présence au milieu de vous, ça va être intolérable. Je vais devoir vous détruire. » Moïse dit « Si c'est ça, ça ne va pas. » Et donc, Moïse va vraiment s'interposer. Regardez le cœur de l'intercesseur. Exode 32-31. Moïse retourna vers l'Éternel et dit, « Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un veau d'or. Pardonne maintenant leur péché, sinon efface de moi ton livre que tu as écrit. » Maintenant, est-ce que Moïse s'en va plaider ça avec la certitude que Dieu va pardonner? Regardez ce qu'il a dit au verset 30. Exode 32-30. Le lendemain, Moïse dit au peuple, « Vous avez commis un grand péché. Je vais maintenant monter vers l'Éternel. J'obtiendrai peut-être le pardon pour votre péché. » Il n'y a aucune certitude. Parce qu'il réalise à quel point c'est horrible. Ils viennent d'être reçus par Dieu. Quelques jours après, ils font ça. Il n'y a pas de certitude, il n'y a pas de garantie de pardon. Lorsqu'il se présente devant Dieu, il dit, « Je sais que ça se peut que tu ne leur pardonnes pas. Si tu ne leur pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. Détruis-moi aussi avec eux. » Et ça, c'est l'intercession. Ça, c'est l'intercession. C'est lorsque je m'identifie avec la cause de quelqu'un et je la prends à cœur. C'est ce que je fais lorsque je vais dans la prière comme chrétien. C'est ça qu'on fait. On prend à cœur quelque chose puis on va plaider la cause devant Dieu. Puis on la porte sur notre cœur. Il n'y a pas d'intercession sans souffrance. Ça n'existe pas, ça. Vous ne pouvez pas prier pour le salut de vos enfants et vous dire qu'il n'y aura pas de souffrance dans ça. Prier pour les Québécois et vous dire qu'il n'y aura pas de souffrance dans ça. Intercéder pour la résolution d'un conflit et vous dire qu'il n'y aura pas de souffrance dans ça. Avec l'intercession vient le fait que je viens m'interposer. Et donc, Moïse n'a pas de garantie que Dieu va pardonner et il met les choses très, très clairement. « Seigneur, non, tu ne créeras pas un nouveau peuple avec ma descendance à moi. Tu vas me détruire moi si tu détruis ce peuple-là. Je veux être détruit avec eux. » Et ça, c'est le cœur de l'intercesseur. Exode 32-14, « L'Éternel se repentit du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. » Dieu ne s'est pas repenti comme nous, on se repent d'un péché. Mais Dieu est revenu sur ce qu'il a déclaré qu'il allait faire. Puis c'est là que se trouve tout le mystère de l'intercession. Il y a quelque chose de très étrange dans tout ça. On sait que Dieu a planifié la fin de toute chose avant même qu'elle n'arrive. C'est clair dans les psaumes, les décrets de Dieu. Dieu accomplit toutes choses selon ses décrets. Dieu avait prophétisé avec précision comment l'arrestation de Jésus allait se faire, comment il allait mourir, où est-ce qu'il allait naître. Tout s'est réalisé selon les décrets de Dieu. Donc, d'une part, Dieu planifie toutes choses parfaitement. Il les connaît avant même qu'elles se réalisent. Donc, Dieu ne change pas. En théologie, on parle de l'immuabilité de Dieu. D'accord? Dieu est immuable, il ne change pas. Et pourtant, Dieu répond à notre intercession. J'aime bien cette citation de Alec Motyer, encore une fois. « Le Dieu souverain et immuable accomplit ses projets à travers les prières de ses enfants. » Il y a quelque chose de mystérieux. Je ne peux pas vous l'expliquer comme il faut, d'accord? Puis, je ne veux pas vous insulter. Si vous m'accrochez à la porte tantôt puis vous me dites « Yannick, j'ai toute l'explication », ça se peut que je ne sois pas capable de m'empêcher de sourire, d'accord? on est dans les mystères de Dieu, les plus grands philosophes, les plus grands théologiens proposent une explication. C'est tout ce qu'on peut faire, d'accord? Mais cette concurrence de la volonté souveraine de Dieu et de ce qu'il nous permet à nous d'avoir comme impact sur lui est mystérieuse. Écoutez bien cette citation-là de Motyer. « La prière est une des lois de Dieu par lesquelles il gouverne le monde. » D'accord? Je vous répète ça. Parce qu'on veut être une maison de prière. « La prière est une des lois de Dieu par lesquelles il gouverne le monde. » Comment ça marche, je ne sais pas. Mais Dieu est comme ça. Et donc, je sais que lorsque je vais dans la prière, je m'adresse au Dieu souverain, qui est parfaitement au contrôle de toutes choses, qui a déterminé ses décrets, qui a arrêté ses décrets sur toutes choses. Et il m'offre la possibilité d'aller intercéder pour qu'on puisse lire une phrase comme « L'Éternel se repentit de tout le mal qu'il avait dit qu'il ferait à Israël. » Évidemment, on ne peut pas s'empêcher de penser à Christ. À Jésus-Christ. Dans tout le passage, Moïse va aller sur la montagne, puis lorsqu'il va descendre la montagne, il illumine, son visage est radieux, puis on pense à Christ sur le mont de la Transfiguration, sur la montagne de la Transfiguration, où lui-même va être illuminé. Et donc, on ne peut pas faire autrement que de penser à Christ, parce que ça avait été annoncé. Dans Actes 7, 37, on lit ceci. « C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Lorsque Moïse arrive à la fin de sa vie, il va dire au peuple d'Israël, « Ne craignez pas, Dieu va susciter dans votre descendance un prophète comme moi qui va venir. » Et lorsqu'on étudie la vie de Jésus à travers les évangiles, le sermon sur la montagne, plein de passages, des dizaines de passages, on découvre que Jésus est ce Moïse qui devait venir. Mais il y a quelque chose de différent, une petite affaire, qui fait toute la différence du monde. Rappelez-vous, lorsque Moïse est monté sur la montagne, il est allé intercéder en disant, « Peut-être que j'obtiendrai le pardon de vos péchés. Peut-être que je vais l'avoir. Je n'ai pas d'assurance. » Et il a offert sa vie en disant, « Si tu ne leur pardonnes pas, efface mon nom. » Christ n'a pas offert sa vie. Il est mort sur la croix pour nos péchés. Et donc, on lit dans Hébreux 9, versets 11 et 12. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, la présence de Dieu céleste, pas sur la terre, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Éternelle. Quand Christ est monté, il n'est pas monté en disant, « Restez ici, je vais aller voir si je peux peut-être obtenir votre pardon. » Et comme chrétien, parce que j'ai placé ma foi en Jésus-Christ, quand je réalise que j'ai péché, que j'ai fait une faute, puis que je vais dans la prière, je ne m'en vais pas là pour peut-être que Dieu me pardonne. Je sais qu'il me pardonne parce que Christ a obtenu une rédemption éternelle. Lorsque j'ai cru en Jésus-Christ, j'ai été pardonné pour mes péchés passés, pour mes péchés présents et pour mes péchés à venir. J'ai été caché en Jésus-Christ et c'est sa justice à lui qui m'a été imputée à moi. Moïse ne pouvait pas faire ça. Moïse était juste un homme puis un pécheur avec ça. Mais Moïse pouvait être un intercesseur. Il ne pouvait pas prendre la place de Christ, il pouvait être un intercesseur. Et chacun d'entre nous ici, nous pouvons être des intercesseurs. Nous pouvons être des intercesseurs pour nos enfants, pour notre famille, pour la ville de Longueuil, pour les Québécois qui sont confus actuellement avec ce qui vient de se passer là, pour ces gens là-bas qui ont subi ce drame horrible-là. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Je ne sais pas comment mes prières à moi, le petit Yannick, changent quelque chose dans l'histoire de Dieu. Mais je sais une chose. La prière est une des lois de Dieu par lesquelles il gouverne le monde. Et Dieu répond aux prières, et en réponse aux prières, Il fait des choses absolument extraordinaires. Et ce récit-là se termine sur ceci. Dieu va manifester sa miséricorde et sa fidélité. Il donne la promesse à Moïse qu'il va les accompagner, qu'il va être avec eux lui-même en personne. Il revient sur l'idée de dire « Je ne peux pas marcher avec vous ». Et à la toute fin, Dieu se manifeste à Israël, Exode 34, 10. L'Éternel répondit « Voici, je traite une alliance, je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays, chez aucune nation. Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. » J'aimerais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Peut-être que tu es dans une parenthèse, puis Dieu veut te révéler ton cœur. Si ce n'est pas maintenant, peut-être que ça va venir bientôt. Puis ça ne sera pas beau ce que tu vas découvrir. Sache qu'à travers ça, Dieu veut te faire connaître sa grâce. Pour un chrétien qui a connu l'Évangile, quand je découvre mon péché, il y a quelque chose de troublant, d'humiliant, de bouleversant. Mais il y a toujours quelque chose de beau en cela. Parce que je sais que la grâce de Dieu m'attend et que Dieu est en train de me révéler qui je suis pour me transformer à l'image de Christ, pour former Christ en moi. Et donc, quand ces parenthèses-là surviennent, puis le découragement peut venir sur vos cœurs, rappelez-vous la fin de l'histoire, parce que la fin de cette histoire-là, c'est une histoire triste qui se termine encore une fois par la grâce de Dieu. Sachez qu'on a un intercesseur qui est auprès du Père Jésus-Christ. Il n'est pas allé négocier pour voir s'il pourrait encore une fois obtenir le pardon pour les péchés que tu as commis cette semaine. Il a obtenu le pardon éternel, une rédemption éternelle pour tous nos péchés. Amen! Pour tous nos péchés! Il n'y a pas de péché pour lesquels il n'a pas obtenu un pardon parce qu'on est caché en Jésus-Christ. Et ça, c'est notre privilège comme chrétien. C'est notre grâce. Maintenant, on est appelé à devenir des intercesseurs à notre tour. Pas comme si on pouvait être Christ. Mais parce qu'on veut voir la grâce de Jésus-Christ entrer dans les cœurs autour de nous. Et on sait que Dieu répond aux prières. Parce que Dieu est fidèle, il accomplit ses promesses. Et il a promis qu'un grand peuple, un peuple nombreux de toutes les nations de la terre, viendrait l'adorer. C'est ce qu'il est en train de faire ici à Longueuil, à travers nous, à travers vous, dans votre famille, autour de vous. Alors soyons des intercesseurs. Ayons confiance en Dieu. Ayons confiance dans sa grâce. On prie ensemble. Seigneur Jésus, c'est une histoire laide, l'histoire du veau d'or, parce que ça montre la bêtise du cœur humain, Seigneur. On a besoin de voir pour croire trop souvent. On n'est pas capable de marcher par la foi. Puis Israël a manqué de foi, ça les a amenés dans la folie, à te renier si peu de temps après t'avoir connu. En regardant dans leur vie autour d'eux, en regardant les bénédictions de marcher dans tes voies, c'était visible, c'était évident, Seigneur, comme dans ma vie. Je peux compter tes bienfaits depuis toutes ces années où je marche avec toi, et pourtant, parfois, je manque de foi, Seigneur. Je manque de foi dans ta bonté, ta fidélité. Et ça m'amène, Seigneur, à jeter mon dévolu sur des idoles, à mettre des choses à ta place dans mon cœur, Seigneur. Mais Seigneur, cette histoire-là est une histoire de grâce, c'est une histoire de rédemption. C'est une histoire d'intercession. Et Seigneur Jésus, ce matin, alors qu'on va se préparer très bientôt à prendre le repas du Seigneur, on veut préparer nos cœurs, Seigneur, à t'adorer, Jésus. Parce que le pardon que tu nous as acquis est un pardon éternel, Seigneur. Tourne nos cœurs vers toi ce matin. C'est en Jésus qu'on prie, Père. Amen.